France Info.
Cannes et 15 même pour Nice en ce moment.
Merci beaucoup Christine Peña et merci à tous d'être sur France Info. Il est 5h. Et à la une de ce 19 janvier, donc cette catastrophe ferroviaire en Espagne. Plus d'une vingtaine de morts au dernier bilan dans la collision entre deux TGV en Andalousie. À la une également une finale chaotique au Maroc. Confusion, bagarre en marge de la victoire du Sénégal face aux pays hôtes. Un sommet en urgence des Européens convoqué cette semaine à Bruxelles face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland. Et puis le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, c'est aujourd'hui. Alors ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais la déprime est quand même là. Reportage dans un instant. C'est donc l'une des pires catastrophes sur les rails de ces dernières années en Espagne. Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision hier soir. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
On fait le point avec vous d'abord sur le bilan. Le dernier fait état de 21 morts au moins.
Oui, 21 morts, une trentaine de blessés graves et le bilan peut s'alourdir, préviennent les autorités. Le nombre de disparus est encore inconnu. Ces deux TGV transportaient au total 400 passagers. Alors la collision est survenue peu après 19h30 hier à Adamuz. On est dans le sud de l'Espagne, au sud de Cordoue. Ce n'est pas un choc frontal. En fait, le premier TGV déraille, trois wagons à l'arrière qui déraillent. C'est alors que le second TGV qui arrive en sens inverse, lancé à 200 km/h, vient les percuter. La violence du choc est telle que deux wagons chutent dans un ravin. Pour l'instant, on n'a aucune explication, mais cet accident est très étrange, selon les mots du ministre des Transports espagnol, qui rappelle que les deux TGV circulaient sur une ligne droite, que la voie sur laquelle ils circulaient a été rénovée au printemps dernier, que le train qui a déraillé était quasi neuf. Une commission indépendante est chargée d'enquêter.
Merci beaucoup Mélodie Pépin. Notez que la famille royale espagnole fait part de sa grande inquiétude à la suite de cet accident. Le président Macron lui adresse ses pensées aux victimes. Il évoque une tragédie, il promet le soutien de la France à l'Espagne. À la une également ce matin, le sacre du Sénégal, champion d'Afrique de football. Les Sénégalais ont remporté leur deuxième CAN, deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Finale remportée face au Maroc, le pays hôte, 1-0 à Rabat. Rencontre gâchée par des débordements. Un match qui a bien failli, Adel Belloumri, ne jamais arriver à son terme.
97e minute au bout du temps additionnel, l'arbitre consulte l'assistance vidéo avant d'accorder un pénalty pour le Maroc, quelques minutes après avoir refusé un but pour le Sénégal. Énorme colère des supporters sénégalais, le match bascule dans l'irrationnel. Amine, supporter marocain, est halluciné.
Ils sont rentrés sur le terrain en fait, j'ai tabassé les ramasseurs de balles, j'ai trouvé ça inacceptable, après j'ai pas compris comment ça s'est passé.
Affrontement entre supporters et stadiers, la police qui matraque en retour, un véritable chaos.
On est dégoûté par rapport à l'image que ça donne, surtout que tout se passait bien jusqu'à présent. Le dernier jour, le dernier match. Et je trouve ça dommage de ternir l'image un peu de cette CAN.
C'est honteux pour le football. L'équipe qui veut sortir au moment du pénalty parce qu'ils sont pas d'accord. Ça, c'est honteux.
Les joueurs sénégalais quittent le terrain pour protester, puis reviennent. Le jeu reprend 16 minutes après la VAR. Panenka raté de Brahim Diaz. Et en prolongation, Pape Gueye offre le titre au Sénégal. Un titre au goût amer pour El Hadj, venu de Dakar.
Pour la première fois dans ma vie, je n'ai jamais vu ça. Pour les supporters, c'est un peu catastrophique. Parce que nous, les Sénégalais, comme on disait avant, Sénégal-Maroc, on est des frères, mais c'est décevant, vraiment.
Une fois les tensions apaisées, ces incidents n'ont pas empêché Marocains et Sénégalais de célébrer après le match.
Reportage à Rabat au Maroc, signé Adel Belloumri pour France Info. Réunion d'urgence à Bruxelles. Hier soir, les ambassadeurs des 27 États membres de l'UE se sont rencontrés pour répondre aux dernières menaces de Donald Trump. On le rappelle, le président américain compte désormais imposer des droits de douane à certains pays de l'Union, dont la France. Si le Groenland n'est pas cédé aux États-Unis, 10% de droits de douane à compter du 1er février, 25% même à compter du 1er juin, tant que le territoire autonome qui appartient à la couronne du Danemark n'aura pas été intégralement vendu. Et pour l'heure, Pierre Benazé, les Européens s'affichent très unis.
Les Européens considèrent que la souveraineté du Groenland est une question très grave et existentielle pour l'Union, tout aussi existentielle que la souveraineté de l'Ukraine, alors même que certains en Europe orientale craignent de voir s'amenuiser le soutien américain à Kiev. Le Danemark se voit donc garantir une solidarité unanime de ses partenaires européens. Ils estiment dans leur ensemble que la spirale des droits de douane est inacceptable et qu'il est hors de question de négocier la souveraineté d'un État. Les Européens veulent envoyer un message aux États-Unis. Ils sont prêts à dialoguer et dissiper les malentendus. Ils sont prêts aussi à travailler à la sécurité de l'Arctique. Ils demandent à la Commission européenne de préparer la réponse, c'est-à-dire la reprise des droits de douane européens. Ils portent sur 93 milliards d'euros d'importations des États-Unis. Ces droits de douane sont uniquement suspendus temporairement, en l'occurrence jusqu'au 6 février, et il suffirait de ne pas reconduire cette suspension. Plusieurs grands pays sont favorables à l'idée de choisir le rapport de force, en particulier France, Allemagne, Pologne et Espagne.
Pierre Benazet à Bruxelles pour France Info. On le rappelle donc, il y aura une réunion d'urgence des leaders de l'Union européenne cette semaine. C'est ce qu'annonce le président du Conseil européen, Antonio Costa. Le Conseil des ministres est exceptionnellement programmé aujourd'hui à l'Élysée. Le Premier ministre y annoncera comment il compte faire adopter le budget de l'État via ordonnance ou alors par 49-3 face au blocage à l'Assemblée nationale. Ces dernières heures, les socialistes, au départ opposés à l'usage du 49-3, ont laissé entendre qu'il pourrait ne pas voter la censure si certaines de leurs mesures sont retenues dans la copie finale. Parmi ces revendications du PS, la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises qui sera reconduite cette année et elle rapportera le double de ce qui était prévu dans la version initiale du gouvernement, alors même qu'il y aura moins d'entreprises qui devront mettre la main à la poche. C'est ce qu'a expliqué hier soir sur France Info la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Pour les très grandes entreprises, il y avait l'année dernière une surtaxe exceptionnelle qui concernait l'impôt sur les sociétés de 440 grandes entreprises. Cette surtaxe sera maintenue avec le même barème, à une différence près qui est importante et qu'il faut préciser. Les ETI, des entreprises de taille plus petite, seront sorties voilà, de cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. À la fin, ça touchera non plus 440, mais 300 grandes entreprises et ça rapporte environ 8 milliards.
La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, la ministre de la Santé, elle arrive en tête du premier tour d'une législative partielle organisée dans le Loiret, un scrutin car son suppléant a refusé de la remplacer à l'Assemblée lors de son entrée au gouvernement. Stéphanie Rist reçoit donc près de 34% des voix lors de ce premier tour devant la candidate du Rassemblement National. Le second tour aura lieu dimanche prochain. Deux quartiers de Narbonne dans l'Aude ont été évacués par précaution face aux fortes pluies qui touche la région, un épisode qui pousse Météo France et Vigicru à enclencher la vigilance orange dans 5 départements, l'Aude donc, mais aussi l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et toute la Corse. On surveillera cette vigilance dans les heures qui viennent. La météo, voilà qui participe sans doute à la morosité du début d'année avec la fin des vacances de Noël. Le coup de blues que l'on surnomme le Blue Monday, c'est aujourd'hui, concept hein, qui n'est pas scientifiquement prouvé. C'est une date plutôt symbolique, mais ce coup de mou, eh bien, il est bien là pour nombre d'entre vous. Exemple à Amiens, Gabriel Oupravant.
Les décorations de Noël sont rangées, les sapins sont jetés, l'esprit de Noël envolé. La période après les fêtes est plus compliquée que d'autres moments dans l'année. C'est le ressenti de Françoise, 56 ans.
Janvier, février, c'est la plus triste. Il fait froid, la pluie, c'est sombre la journée. Avant, on prépare les périodes de fêtes et après, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est triste, on attend l'été.
Des coups de blues hivernaux qui affectent aussi les jeunes. Héloïse a 21 ans, elle se sent toujours moins bien pendant cette période.
En études, en plus, souvent l'hiver, c'est l'arrivée des partiels, donc forcément le froid, la nuit, les examens, c'est pas évident à gérer.
La psychologue Marilène Gauvin constate qu'elle reçoit plus de demandes de consultation après les fêtes, particulièrement en janvier.
L'éloignement, les conflits qui ressurgissent autour des repas de famille, ça vient réveiller vraiment des choses qui ont été mises, si vous voulez, sous le tapis.
Pour éviter les coups de mou, elle conseille de pratiquer une activité physique régulière.
Même s'il fait pas beau, il faut enfiler les bottes, le bonnet, le cache-nez et aller marcher au moins une fois dans la semaine.
Selon la psychologue, la marche permet de réduire le stress et de sécréter de la dopamine, aussi appelée hormone du bonheur.
Merci beaucoup Gabriel Oupravant, ici Picardie pour France Info. Christine Peña, c'est une météo de Blue Monday qui nous attend aujourd'hui un lundi sous les nuages.
Sous les nuages, effectivement. Les nuages, mais vraiment très nombreux. Nous avons ces pluies intenses et elles le restent dans le sud, notamment sur l'Aude, sur les Pyrénées-Orientales, c'est là qu'elles viendront se caler avec un orage possible, pourquoi pas près des côtes. L'est de la Corse également aura des averses soutenues avec de la neige à partir de 1700 mètres d'altitude sur les montagnes corses. Et le risque d'avalanche d'ailleurs est très important, de 4 sur 5. Nous avons un peu de neige sur les autres massifs, mais moins de quantité. Et puis toujours ce ciel très nuageux à l'ouest avec quelques pluies. À l'est, c'est couvert, c'est voilé. Quelques tentatives tentatives de soleil quand même, apparitions sur Paris, Lille, Reims, notamment, ou pourquoi pas en Bourgogne. Et encore, attention, nous avons pas mal de brouillard qui pourrait se montrer persistant, notamment près de la frontière allemande, où les températures ne vont pas décoller. On a de petites gelées ce matin et il devrait faire entre 3 à Strasbourg, 4 à Nancy à peine, contre 10 à 11 degrés ailleurs, et toujours un peu plus dans le sud-est, de 14 à 15 degrés du côté de Nice notamment.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.
Du 21 au 25 janvier, les Nuits de la Lecture reviennent. Cette année, cap sur le thème « Ville et campagne ». Partout en France, bibliothèques, librairies, écoles, musées ou théâtres vous accueillent pour partager le plaisir de lire à travers des milliers d'événements. Découvrez le programme sur nuitsdelalecture.fr. Un événement du Centre National du Livre en partenariat avec Radio France.
Au programme de France Info d'ici 5h30, les dossiers de surendettement de plus en plus nombreux, plus 10% en un an. Parole de Français dans 10 minutes, des Français écrasés par la dette. Nous serons aussi avec des supporters marocains et sénégalais, alors que le Sénégal s'est imposé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et a donc battu le Maroc qui était le pays hôte. Mais d'abord ce drame sur les rails en Espagne.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Catastrophe ferroviaire et un bilan très lourd, au moins 21 morts et une trentaine de personnes hospitalisées dans un état grave. Bonjour Pierre Chaperon.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Info et de RFI en Espagne. Alors Pierre, est-ce que l'on a des précisions sur le déroulé de cet accident ?
Oui, c'est sur une ligne droite à Adamus, une petite localité à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cordoue. Là, à 19h32, les deux premiers wagons d'un TGV faisant la liaison entre Malaga dans le sud de l'Espagne et Madrid déraillent. Ils percutent alors un autre convoi circulant en sens inverse, un Madrid-Huelva, un autre train à grande vitesse qui déraille lui aussi. Un choc, une sorte de tremblement de terre, selon les premiers témoignages. Le chaos sur place, sur les premières image de la Guardia Civil, on voit des vitres cassées, des wagons sortis de leurs rails. Aucune raison n'a pour le moment été avancée par les autorités pour expliquer l'accident. La Croix-Rouge, l'armée et plusieurs unités d'urgence ont été dépêchées sur place. Les hôpitaux de la région ont été mobilisés tandis que les habitants de la ville d'Adamus, par solidarité, sont venus apporter leur aide avec des couvertures et de la nourriture.
Et Pierre, cette tragédie, elle rappelle celle de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était en juillet 2012.
Oui, un déraillement d'un train parti de Madrid qui avait fait 79 morts et 140 blessés il y a un peu plus de 12 ans. Le ministre des Transports espagnol, Oscar Puente, qui s'est rendu dans la soirée au poste de contrôle de la gare d'Atocha à Madrid, d'où partaient et arrivaient les deux trains accidentés, parle d'une situation très grave. Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a annulé tous ses rendez-vous officiels afin de suivre la situation, tandis que la Maison Royale adresse ses condoléances aux personnes touchées par ce nouveau drame ferroviaire qui frappe le pays.
Merci beaucoup Pierre Chaperon, correspondant de RFI et de France Info en Espagne. Rappelons qu'Emmanuel Macron a réagi et qu'il promet le soutien de la France. Et c'est donc les joueurs sénégalais qui ont soulevé le trophée à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui s'est imposé 1-0 en finale de la compétition avec un but de Pape Gueye en prolongation. C'est la deuxième Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal qui affrontait le Maroc. Score final 1-0. Le Maroc qui était le pays hôte. Une finale tout de même marquée par la polémique avec un pénalty jugé litigieux, avec des supporters sénégalais qui sont entrés sur la pelouse, des bagarres avec les stadiers, même des bagarres entre journalistes en salle de presse. Tout a basculé dans ce match lors des arrêts de jeu. Valentin Dunat, vous avez assisté à cette finale avec des supporters des deux camps au Palais des Sports de Saint-Denis, près de Paris.
96e minute de jeu, les Marocains ont le sourire, ils chantent, ils dansent. Un pénalty vient de leur être accordé. Mais la plupart des joueurs sénégalais décident de quitter la pelouse. Hassan et son fils Sami, supporters marocains, n'en reviennent pas.
C'est la décision de l'arbitre. Pourquoi ils veulent gâcher ? Ils veulent gâcher ça. Ça fait des années que je regarde les pénales. Il y a toujours eu, soi-disant, des arbitres corrompus ou des matchs truqués. Mais après, c'est décision d'arbitre. Franchement, c'est pas fair play.
Comme c'est à la dernière minute, Ils veulent pas jouer, c'est pas normal.
Finalement, les Sénégalais reviennent sur le terrain. L'attaquant du Real Madrid, Brahim Diaz, rate son pénalty, alors qu'au même moment, des échauffourées ont lieu dans le stade sans qu'elles ne soient diffusées à la télévision. En prolongation, le Sénégal s'impose pour le plus grand bonheur d'Ibrahima.
Je suis fier de cette victoire. Je suis fier de ce qu'ils ont accompli depuis le début de la CAN. C'est le résultat qui compte. On a gagné et voilà. C'est la fête aujourd'hui.
C'est quoi ça?
Ça, c'est...
Ok, il y a eu un fait de jeu incroyable, les Sénégalais qui ont quitté la pelouse.
Oui, ça vraiment, dans le foot, c'est pas du tout fair play. Mais heureusement, on a un Sadio Mané qui a fait une prise de conscience et qui a rappelé les jeunes qui l'ont écouté. Et ça, c'est extraordinaire.
À la fin du match, la désillusion se lit sur le visage des Marocains. On entend les klaxons des supporters sénégalais, les moteurs qui grondissent et eux qui repensent à ce pénalty qu'ils estiment même volontairement raté par Brahim Diaz.
On n'aurait pas dû faire semblant de tirer le pénalty. La vie de ma mère, on aurait gagné sinon. Eh, c'est une dinguerie. Il l'a mis dans les mains du gardien. Demain, je vais pas en cours. Hein. Je vais faire grève.
Vous allez dire quoi au lycée ?
J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Le Maroc, il a perdu. J'ai mal à la tête.
Et ils sont nombreux hein, ce matin à avoir mal à la tête. Le Maroc a perdu sa Coupe d'Afrique des Nations dans son stade à Rabat.
France Info, reportage signé Valentin Dunat. Alors on l'entendait à l'instant, l'une des sources de l'amertume des supporters marocains, c'est ce pénalty raté tiré par l'attaquant du Maroc, Brahim Diaz. Pénalty raté qui va poursuivre très longtemps le joueur du Real de Madrid selon un autre gardien de but, ancien gardien de but, Jérôme Alonso, le consultant foot de France Info.
C'était irrespirable. Je me mettais à la place de Brahim Diaz avant qu'il tire son pénalty à la 98e minute. Je me disais, mais comment il peut tirer ça? Comment un sportif de haut niveau, même si on est préparé depuis jeune, même si voilà, c'est un joueur qui a connu le plus haut niveau avec son club, avec la sélection, comment il va faire pour tirer ça?
Il y a pénalty pour vous, Jérôme, ou pas? Très franchement, ouais, quand vous renvoyez les images, ça se siffle, ça se siffle pas?
Alors oui, ça se siffle. On en voit. Et après, il y a le contexte. Il n'est pas offert. Il est généreux. L'arbitre a été voir en son âme et conscience, dans des conditions aussi pour lui, j'imagine.
Ah, c'est difficile, ouais.
Ouais. Je balaye d'un revers de main toute idée de corruption, etc. Même si on peut reparler d'arbitrage sur cette CAN, mais on peut reparler en Ligue 1 toutes les semaines aussi. Donc voilà, c'est pas l'arbitrage, c'est pas un problème de la CAN, c'est un problème global. Donc mettons ça de côté. C'est un pénalty qui est généreux. Voilà, il est pas offert, il est généreux, mais il y a l'action d'avant aussi, hein, deux minutes avant, je crois, où le Sénégal se voit refuser un but alors qu'au départ de l'action, une faute est sifflée sur Hakimi, qui est alors là pour le coup vraiment vraiment limite. Donc voilà, mais j'avais une pensée pour Brahim Diaz, parce que tirer
ça va être compliqué pour lui, ça va être très compliqué, ouais, Jérôme, dans les jours qui viennent.
En plus, Renault, il tente une panenka, je veux dire, ouais. est-ce que je suis pas à sa place, moi je les ai arrêtés, j'ai essayé de les arrêter.
Mais très franchement, on pense qu'il va tirer en force un boulet, etc.
Ouais, je me dis, allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper fort, il faut fermer les yeux et frapper fort, là, il n'y a pas l'os. Et là, il tente le geste que... Voilà, c'est. Mais je me mets à sa place. Au-delà de la déception, il y a aussi cette. Parce que quand c'est en club, c'est une chose.
Ouais.
Quand c'est une sélection, c'est une chose. Et là, c'est la CAN, c'est la dernière seconde de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition majeure dans une vie. Et vous avez la balle de match à la dernière seconde au bout des pieds. Et je pense que je pense à ce garçon. On peut se moquer de son geste qui est complètement raté en plus. On peut. Mais honnêtement, là, les heures et les jours qui viennent pour lui vont être extrêmement difficiles.
Le consultant football de France Info, Jérôme Alonso, qui répondait à Renaud Blanc. C'est le signe que de plus en plus de Français ont du mal à boucler leur fin de mois. Le nombre de dossiers de surendettement continue de grimper en flèche. Mais il y a des solutions. Rendez-vous dans un instant.
France Info. 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous Maureen, et à la une, ce bilan extrêmement lourd en Espagne.
Au moins 21 personnes sont mortes et il y a aussi une trentaine de blessés graves. Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision dans le sud du pays, près de Cordoue. Le ministre des Transports parle d'un choc terrible. Emmanuel Macron promet le soutien de la France à l'Espagne. Un conseil des ministres est prévu ce matin. Le chef du gouvernement va annoncer quelle procédure il choisit pour faire passer le budget 2026. Sébastien Le Cornu fait des concessions à la gauche. La surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises est reconduite l'année prochaine. Cette année, il doit rapporter 8 milliards d'euros. Donald Trump sera en Suisse tout à l'heure pour le Forum économique mondial de Davos. Le président américain qui a menacé plusieurs pays européens, dont la France, de surtaxes douanières si ces derniers s'opposaient à l'annexion du Groenland. Les dirigeants de l'UE vont se réunir cette semaine pour coordonner leurs réponses. Et puis attention, 5 départements sont en vigilance orange pour risque de pluie, inondation ou de crue. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et la Corse. Le préfet a ordonné l'évacuation de 2 quartiers à Narbonne.
France Info. La Banque de France croule sous les dossiers de surendettement. Plus 10% en 2025, après déjà une hausse de 10% en 2024. Banque de France contrainte de mettre en place des effectifs supplémentaires pour traiter toutes les demandes. C'est une procédure lourde, mais elle permet souvent de s'en sortir. Julie-Marie Lecomte, vous vous êtes rendue pour France Info à Strasbourg, où l'association Crésus accompagne ceux qui sont écrasés par la dette.
Donc sur le courrier d'accompagnement que vous adressez à la Banque de France, vous mettez votre en tête. Hein.
C'est une maman désespérée qui ce matin-là appelle au secours, incapable de payer son loyer depuis des mois.
On doit une dette de 5000 euros, ça fait depuis le mars dernier que je ne peux pas payer. J'ai trouvé un travail le 16 décembre. Ils ont mis fin à ma période d'essai hier. Et j'ai besoin d'être aidée parce que j'ai un garçon, il a 14 ans.
Si elle a peur d'être expulsée, la voilà convoquée au tribunal.
Retrouvée dans la rue avec un enfant. C'est ça qui me fait peur.
Il faudra bien expliquer que vous n'êtes pas endormi sur vos lauriers, mais que vous avez cherché du travail.
Face à elle, Jean-Bernard Fortis, un ancien banquier, regarde très doux derrière ses lunettes en écaille.
Jusqu'à présent, on a traité surtout le surendettement par rapport au crédit qu'on ne pouvait pas rembourser. Mais ce qu'on remarque de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une difficulté à affronter les charges journalières. Les loyers, les charges concernant le chauffage, le gaz, l'électricité.
C'est lié à quoi ça ?
Il y a l'augmentation du coût de la vie, les revenus qui n'augmentent pas. Il faut savoir que les principales causes des personnes qui viennent nous voir ici, c'est la perte d'emploi, des problèmes de santé et les séparations dans le couple.
Et puis le bénévole dit qu'il voit aussi de plus en plus de retraités, comme Leïla, 64 ans. Elle travaillait à l'hôpital de Strasbourg comme agent de restauration.
Vous arrivez à payer jusqu'à un moment donné où vous ne pouvez plus. Vous vous retrouvez à restreindre, et à un moment donné, vous craquez, et puis voilà. Même au niveau alimentaire, je ne dis pas que je ne mangeais plus, mais je faisais des choix. C'est engrenage parce que vous vous retrouvez stressé, et après vous frôlez carrément la dépression. Et je vous dis, moi j'en suis arrivé à un stade où vraiment, je ne vous cache pas, j'avais dit à M. Fortis que j'avais des envies suicidaires.
Mais Leïla vient d'obtenir l'effacement de sa dette.
Donc là, d'après le document, vous pensez que c'est officiel? Vous m'avez rassuré. Oui, je ramènerai une boîte de chocolat. Merci en tout cas, vous m'avez rassuré. Il faut que les gens sachent, il ne faut pas attendre de se noyer, comme on dit. Courez, prenez rendez-vous, prenez tous vos papiers, une solution sera trouvée. Voilà, c'est peut-être long, mais M. Crésus m'a dit, vous inquiétez pas, votre dossier va être traité, ils vous donneront une réponse. Ça m'a déjà apaisé.
Vous êtes totalement protégé là maintenant.
Oh, je vous remercie.
En 2024, dernier chiffre disponible, un tiers des dossiers a obtenu un effacement total de la dette. Et sinon, la procédure permet de la rééchelonner et d'éloigner les huissiers.
Merci beaucoup Julie-Marie Lecomte pour ce reportage. En Alsace, il est 5h23 et c'est l'heure de partir pour le monde d'Élodie. Avec ce matin le groupe Feu Chatterton.
Bonjour Arthur Teboul et Sébastien Wolff.
Bonjour.
Bonjour Feu Chatterton.
Toutes les premières fois louche, l'amour est maladroit, gauche.
Arthur, vous êtes le chanteur et auteur du groupe. Sébastien, vous êtes compositeur, claviériste, guitariste. Enfin, en gros, vous êtes multi-instrumentiste du même groupe. Alors, qu'on se le dise, Feu Chatterton est un groupe à part, inspiré, inspirant, amoureux du verbe, chanté haut et fort, mais aussi parfois mi-mot. Après la sortie de votre 4e album, Labyrinthe, il y a quelques mois, vous vous êtes lancé dans une tournée dans toute la France. Le début des festivités est fixé au 22 janvier. Vous serez à l'Arena Futuroscope de Poitiers, puis à Rennes le 29, à Lille le 1er février, à Amiens le 2, Lyon le 8. Vous passerez par une petite salle qui s'appelle l'Accor Arena les 10 et 11 février. Cet album marque vos parcours de vie à chacun, finalement, quand on regarde bien. Il y a un peu de vos ancêtres à l'intérieur de ces albums. On sent qu'il y avait un besoin de transmission et de montrer à quel point vous êtes constitué aussi de celles et ceux qui vous ont précédé.
Ouais, je pense que c'est dû au simple fait qu'on est un peu entre deux âges et puis qu'on a quand même un bout de vie qu'on a fait ensemble. On s'est rencontrés au lycée tous les deux. Et c'est marrant, parfois on se retourne et on dit wow, 15 ans déjà qui ont passé à faire de la musique ensemble, à grandir ensemble. Et dans cet entre-deux âges, bah, on est devenu père, on a perdu des êtres chers. On avance, mais de manière circulaire, on repasse un peu par les mêmes endroits, en essayant de garder à l'esprit que ce chemin qui nous fait, quelle que soit son allure, quelle que soit sa forme et sa couleur, bah, il nous fait grandir.
Effectivement, il y a eu un point de bascule pour le groupe le 21 février 2024, lors de la cérémonie de panthéonisation de Missak et Méliné Manoukian. Vous avez interprété la chanson « L'affiche rouge ». Là, il y a eu une sorte de prise de conscience de la part du groupe, à quel point les mots étaient impactants, à quel point ils étaient synonymes aussi de notre histoire globale.
Et aussi à quel point, finalement, on avait un rôle à jouer. Sans prétention, mais juste en fait, ah ouais, ok, musicien-chanteur, ah ouais, parfois on a un porte-voix, comment on l'utilise. Jusqu'ici, on n'avait pas pris conscience à ce point, et ça nous a donné un peu une responsabilité du fait d'avoir vécu ce moment où on était les passeurs d'une histoire qui est à la fois juste une chanson, une émotion, et qui est la grande histoire de France, de la résistance, de notre pays, quoi. Un moment où il y a quelque chose qui dépasse les clivages politiques, là on est dans l'union, un moment où, tiens, si ces étrangers-là de l'affiche rouge ne s'étaient pas battus pour un pays qui n'était même pas le leur, dans lequel ils croyaient pour ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous on serait pas là.
Vous avez ce côté grand enfant, Sébastien, que vous gardez tous, hein. Mais en ayant effectivement cette responsabilité depuis l'affiche rouge qui est venue se greffer finalement au reste.
Mais en plus, je compléterais de jeu. Tu vois, les mots, en fait, c'est avant tout du jeu. Et même chez les Aragons dans l'affiche rouge, il y a du jeu. Et ce rapport de joie, de grand enfant, j'aime bien en fait qu'on nous définisse comme ça, parce que on fait un métier qui est quand même particulier. L'injonction qu'on a, c'est de jouer et de prendre du plaisir à ça. Alors oui, on le fait pas naïvement. On essaye de parler de sujets qui nous touchent avant tout nous. On est 5 et on a dans nos chansons l'occasion de pouvoir débattre. On fait un métier incroyable qui est un grand terrain de réflexion et de jeu pour nous, et j'espère pour les gens qui nous écoutent.
Là, s'il y a la scène, un album chez vous, c'est aussi un prétexte à monter sur scène, à rencontrer le public avec pas mal de dates. Comment vous vivez ça justement, d'avoir ce public qui ne cesse de grandir?
C'est un des trucs que j'ai le plus de mal à réaliser. Parfois je dis de Bercy. Et j'y pense quand je me dis mais de Bercy quand même, de Bercy c'est les stars qui font ça. Il y a un truc d'étape qui s'est fait, on a fait tous les petits bars, après toutes les petites salles, après les moyennes salles, les grandes salles, après les zéniths et les festivals plus. Mais ce double Bercy là, il a un truc quand même un peu plus ouf. On a rêvé ensemble, sans oser le dire, d'être des rockstars parce qu'on avait 15 ans. Et ça, c'est beau, je trouve, d'être des potes de 15 ans qui continuent et qui arrivent sur la scène de Bercy. De waouh, tu te rappelles quand on traînait en bas et quand on a vu ces groupes incroyables et on se disait, mais un jour, j'ai le droit de rêver de ça ou pas?
Pour terminer, vous abordez dans le titre ce qu'on devient, l'importance de savoir effectivement quelle route nous empruntons. Vous dites retrouver la clé plongée dans le puits, essuyer la perle couverte de suie, comme des enfants danser sous la pluie. Vivre n'est donc pas laisser passer l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie.
C'est vraiment le message du disque, d'accepter, de retrouver de la joie et de passer ces orages qui font partie de l'amour. En fait, cette chanson, c'est une chanson peut-être qu'on a au fond écrite pour nous, parce qu'on a passé des étapes difficiles, les cinq. On n'était pas loin de la rupture. Et dans cette chanson, tous les questionnements apparaissent, parce qu'on a du mal à se parler, comme beaucoup de couples. Et donc on a mis dans cette chanson des mantras, et retrouver la clé dans le puits, c'était exactement ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Alors je crois qu'on l'a retrouvée entre-temps, et je pense que c'est une chanson qui, je crois, peut parler à beaucoup, beaucoup de gens, qui soient en couple, ou dans des groupes d'amis, ou dans le travail, ou dans leur vie en général. Il faut croire qu'après l'orage, y a du soleil, sinon abandonnons tout de suite.
Merci Arthur et Sébastien, merci Feujat Ayrton d'être passé dans le monde des sur France Info. Labyrinthe, votre dernier album est sorti. Vous êtes actuellement tourné dans toute la France. Vous serez notamment à l'Accor Arena à Paris, donc à Bercy, les 10 et 11 février prochains. Merci beaucoup.
Merci.
Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici.
Feujat Ayrton, dans le monde d'Élodie, à réécouter sur l'application Radio France.
La mienne aussi. Je ne sais plus qui je suis. Comme cette nuit est longue, je fais le tour de la ville.
France Info Météo, avec Vérissure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Vérissure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur Vérissure.fr.
Feu Chatterton, on a besoin d'un peu de feu ce matin, Christine Peña, oui. Pour résister au froid avec ce retour des gelées matinales.
Mais oui, les gelées sont de retour, effectivement. Alors, c'est très contrasté d'ailleurs aujourd'hui, ça va le rester. Entre l'influence océanique à l'ouest, hein, où il ne fait pas froid, du coup, on a de 8 à 10 degrés dans les Landes jusqu'en Bretagne, Normandie, alors qu'il fait bien froid sur le nord-est, contraste avec le retour de quelques gelées ce matin. On gardera ce contraste avec ce froid sur le nord-est, hein, sous la grisaille persistante, parce qu'on a pas mal de brouillard entre le Val-de-Saône et l'Alsace. Ça risque de rester en place. Du coup, il va faire froid toute la journée. On aura de 3 à 4 degrés, pas plus, alors qu'ailleurs, bah, il fera moins froid. Il fera même assez doux dans le sud-est, hein, jusqu'à 15-16 degrés entre Nice et la Corse. On parle toujours de ces pluies intenses sur le sud, hein, 5 départements en vigilance pluie-inondation, un petit peu pour les crues, l'Hérault et l'Aude, mais les Pyrénées-Orientales et 2 départements corse, c'est là où il pleuvra le plus, avec ces pluies soutenues qui vont rester en place à partir de demain. Peu à peu, ça va s'estomper. La situation, je vous le dis, est figée. On a sur l'est, le nord-est, des conditions anticycloniques avec ces brouillards, mais ce temps beaucoup plus calme. On peut espérer quelques éclaircies entre le nord, Paris et le centre du pays, et puis à l'ouest, on a toujours ces nuages avec quelques petites précipes, hein, c'est de petites pluies fines. Oui, voilà, précipitations. Entre la Bretagne notamment et l'Aquitaine.
Merci beaucoup Christine Peña pour vos prévisions météo. Ce qui vous attend d'ici 6h sur France Info, les Européens qui se préparent donc à riposter contre Donald Trump avec une réunion d'urgence annoncée pour cette semaine. On le rappelle, le président américain menace certains pays, dont la France, de droits de douane pour avoir envoyé des militaires au Groenland. Dossier complet dans 5 minutes. À venir aussi, des mises en examen 10 ans après un essai thérapeutique qui a coûté la vie à un patient. Et puis le Sénégal, champion d'Afrique de football, victoire 1-0 contre le Maroc. Au Maroc, nous y serons dans un quart d'heure. Pour le moment, il est 5h30. Bienvenue à tous, c'est l'heure d'un nouveau Tour de l'Actu.
France Info.
Emmanuel Macron promet le soutien de la France après le drame qui s'est déroulé hier soir dans le sud de l'Espagne. 2 trains TGV se sont percutés et 21 personnes sont mortes, Pierre Chaperon.
La scène se déroule à 19h39 dans la localité d'Adamous, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cordoue, en Andalousie. Là, sur une ligne droite, les deux premiers wagons d'un TGV faisant la liaison entre Malaga, dans le sud de l'Espagne, et Madrid, avec à son bord 300 personnes, déraillent, percutant un convoi d'un TGV dans le sens inverse, qui a lui-même déraillé. Aucune raison officielle n'a été avancée pour expliquer l'accident. Les liaisons ferroviaires à grande vitesse entre Madrid et l'Andalousie ont été suspendues. Le ministre des Transports espagnol, Oscar Puente, parle d'une situation très grave. La Croix-Rouge et plusieurs unités d'urgence ont été dépêchées sur place. Un événement qui fait revivre le traumatisme de l'accident de train de 2013 à Saint-Jacques-de-Compostelle, un déraillement de train qui avait coûté la vie à 79 personnes.
Les précisions de Pierre Chaperon, correspondant en Espagne de RFI et France Info. Le budget s'est enlisé au Parlement et le Premier ministre va trancher. Un conseil des ministres est organisé exceptionnellement aujourd'hui à l'Élysée. Sébastien Lecornu dira comment il compte faire adopter le projet de loi de finances pour 2026 via 49.3 ou alors par ordonnance, une procédure qui n'a jamais été utilisée jusqu'à maintenant et qui pourrait politiquement être risquée pour lui. Elia Bergel, le chef du gouvernement, doit donc choisir.
Oui, et pour le moment, Sébastien Lecornu n'a pas tranché sur son entourage. Fin du suspense, aujourd'hui. L'annonce sera faite en Conseil des ministres, selon la porte-parole du gouvernement. Sébastien Lecornu fait face à deux options. Le 49-3 d'abord, faire passer le texte sans vote. C'est le moins risqué, car le PS pourrait ne pas voter la censure dans ce cas, si les dernières concessions faites aux socialistes sont bien dans la copie finale. Sauf qu'à l'automne, Sébastien Lecornu a promis qu'il y renonçait sur ce texte. Utiliser le 49-3 revient donc à renier sa parole. Autre solution, imposer le budget par ordonnance. Inédit et surtout très inflammable politiquement. Dans les deux cas, ça sera motion de censure derrière. Au Premier ministre de trouver la voie de passage donc, et vite, s'agace un député macroniste, car selon lui, les Français sont à bout et veulent un budget pour le pays.
Merci beaucoup Elia Bergel, service politique de France Info. Un porte-conteneur est parti hier du port du Havre à son bord. Près de 400 tonnes d'aide pour les enfants de Gaza. Une annonce du Quai d'Orsay. Ce sont des compléments alimentaires, des doses quotidiennes prévues pour 40 000 enfants pendant 6 mois. Les forces kurdes acceptent un cessez-le-feu en Syrie face aux troupes du gouvernement qui ont rapidement progressé ces derniers jours dans leur territoire. En échange de ce cessez-le-feu, les forces kurdes devront être intégrées dans l'armée régulière. C'est donc la fin d'une autonomie qu'ont les Kurdes depuis une décennie maintenant en Syrie. C'est une première depuis 1986 au Portugal. Il y aura un second tour à la présidentielle. Le vote pour le premier tour avait lieu hier et aucun candidat ne s'est imposé dès ce premier tour. C'est le candidat socialiste qui arrive en tête. Le deuxième candidat est d'extrême droite, André Ventura, qui est chef de file du parti Chega. François Bayrou déclare officiellement sa candidature. L'ancien Premier ministre, président du Modem, va briguer au municipal du mois de mars prochain un troisième mandat à la tête de sa mairie de Pau. Et puis le piton de la Fournaise est entré en éruption sur l'île de la Réunion depuis quelques semaines. Maintenant, il menaçait de se réveiller avec une activité sismique importante. Pour le moment, pas d'inquiétude pour la sécurité. La lave s'écoule dans une zone inhabitée. Merci d'écouter France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Et revenons à ces menaces toujours plus importantes de Donald Trump sur le Groenland. L'Union européenne prépare sa riposte. Un sommet extraordinaire des 27 aura lieu dans les jours qui viennent, annonce le président du Conseil européen. Après ces menaces, on le rappelle, de Donald Trump d'imposer à certains pays de l'Union, dont la France, des droits de douane supplémentaires, tant que le Groenland, territoire danois, ne sera pas cédé aux États-Unis. Parmi les pistes à l'étude de riposte pour les Européens, l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, souvent surnommé le bazooka commercial. Cette piste, elle est envisagée car, cette fois, le président américain est allé trop loin, estime Jean-Dominique Giuliani. C'est le président de la Fondation Robert Schuman, un cercle de réflexion pro-européen.
Je crois que Donald Trump a commis l'erreur de trop, en fait, parce que jusqu'ici, les Européens ont manifesté pour des raisons, guerre en Ukraine ou d'autres intérêts économiques, une volonté tout à fait apaisée d'essayer de calmer les humeurs d'un président américain de plus en plus incompréhensible, d'ailleurs. Et là, il les accule, il les pousse à réagir. Car mettre en cause, avec un chantage économique et des droits de douane, la souveraineté d'un État européen et faire pression pour faire revenir le Danemark, qui est souverain, sur des décisions qui ne le concernent que lui, c'est inadmissible et c'est, à mon avis, une ligne rouge qui a été franchie, la déclaration du président Macron, les réactions des pays et premiers ministres intéressés montrent que là, il est allé trop loin.
L'eurodéputée Valérie Hayes souhaitait l'utilisation de l'instrument anti-coercition. Alors, elle parle d'une arme nucléaire économique, selon ses mots. Vous y croyez vraiment ?
Oui, j'y crois, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui a été adopté en 2023 pour faire échec à un chantage chinois à l'égard de la Lituanie, au motif qu'elle entretenait des relations avec Taïwan. Et en réalité, l'instrument est prêt. Et l'instrument est très large. Il permet non seulement de répliquer par des droits de douane,
oui,
par des mesures de coercition, c'est-à-dire interdiction d'accéder au marché unique, rentrer dans l'Union européenne, pour des personnes comme pour des entreprises, comme pour des biens. Interdiction d'accéder au marché public. Et en réalité, le panel est très large et permet aux Européens de réagir et de, comment dirais-je, de mesurer leur réaction. S'il y a des droits de douane américains, il y aura des droits de douane européens d'un montant équivalent. Ensuite, il y a d'autres mesures. Vous parliez, Pierre Benazé parlait de l'accès au marché européen des géants du numérique. Là, on a effectivement de quoi agir. D'abord parce qu'il y a toute une série d'instances à l'égard des grands géants américains du numérique qui ne respectent pas les règles européennes. Vous avez vu qu'il y a eu des condamnations. Et enfin, dernier point, il y a encore mieux que l'arme atomique, n'est-ce pas ? L'essentiel de la dette américaine, la dette fédérale, elle est détenue par des Chinois et par des épargnants européens. Et on a vu que les Chinois savaient en jouer, peut-être que les Européens, en tout cas les citoyens européens, vont s'éloigner de plus en plus des placements qui pourraient financer une administration américaine devenue hostile.
Arme atomique, économique, on précise bien évidemment Jean-Dominique Giuliani, mais ça veut dire que pour vous, vous qui suivez cette construction de l'Europe depuis des années, il faut aujourd'hui frapper fort ?
Oui, il faut frapper fort et à mon avis, c'est en cours.
Roland Lescure, d'ailleurs, est à Berlin pour plaider l'utilisation de cette arme. Ça veut dire que ce n'est pas encore tout à fait gagné avec Berlin. Il faut convaincre nos voisins, nos partenaires.
Si vous voulez, il y a un règlement qui permet à la Commission de réagir. Et ensuite, il faut d'abord adopter la mise en œuvre, le déclenchement du règlement. Et ensuite, les mesures, elles sont adoptées par la Commission européenne avec le contrôle des États membres et donc des votes aussi chaque fois. Donc, il y a bien sûr tout un degré et certainement des secteurs à déterminer, secteurs dans lesquels l'Union européenne envisage de répliquer. Une fois encore, on a le sentiment que l'Union européenne, elle va avoir gain de cause, comme elle l'a eu en Ukraine. Lorsque M. Trump voulait passer un accord avec la Russie sur le dos des Européens et des Ukrainiens, finalement, ça ne s'est pas produit, parce que les Européens, avec le fil du rasoir, j'en suis bien conscient, mais avec beaucoup de finesse, ont orienté ce plan pour ne pas abandonner l'Ukraine. Ça va être la même chose dans ce cas-là, c'est-à-dire on va laisser au Congrès américain, aux citoyens américains qui sont hostiles à la folie qui a pris le président américain de vouloir occuper un territoire comme le Groenland, on va leur laisser aussi une marge de manœuvre pour qu'ils se manifestent en interne.
Ça veut dire que pour vous, ça peut bouger du côté des États-Unis, si je vous comprends bien. Ces menaces de l'Europe, elles peuvent faire peut-être bouger, réagir les Américains et un certain nombre d'élus, démocrates bien sûr, mais aussi républicains.
Pour moi, c'est une certitude. Déjà, il y avait une délégation à Copenhague bipartisane du Congrès américain cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, et qui a manifesté sa solidarité avec le Danemark. Donc, M. Trump n'a pas de majorité, ni au Sénat, ni à la Chambre, pour envahir le Danemark ou continuer ses pressions inadmissibles.
Qui parle le mieux, j'allais dire, avec Donald Trump ? Est-ce que c'est le chancelier allemand ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ou Giorgia Meloni qui apporte son soutien en disant que ce que propose Trump est une erreur ? Est-ce que vous pensez que, vu ses relations un petit peu privilégiées avec Donald Trump, Giorgia Meloni a un rôle à jouer ?
Écoutez, Donald Trump, avec tous ses amis MAGA, Make America Great Again, a manifesté à l'égard de Mme Meloni beaucoup d'affection et de tendresse, mais elle est très solidaire et les chefs d'État et de gouvernement américains sont solidaires et unitaires dans cette affaire parce que leurs intérêts sont en cause et les principes qui gouvernent leur nation, et pas seulement l'Union européenne, sont critiqué, mis en cause par les États-Unis. Donc, il n'y aura pas de coin à enfoncer entre les dirigeants européens. Ils seront quasi unanimes, avec peut-être quelques marginaux hongrois ou autres, mais qui seront minoritaires.
Qu'est-ce qui peut se passer d'ici le 1er février, puisque là, on est au stade des menaces du côté américain? Qu'est-ce qui peut se passer dans les deux semaines qui viennent?
L'instrument de coercition a une procédure tout à fait prévu. C'est-à-dire qu'il y aura des discussions, maximum 4 mois, il y aura des discussions, il y aura des propositions et il y aura des décisions des Européens qui feront ou feront pas reculer les Américains. S'ils ne reculent pas, ce sera une escalade. Mais encore une fois, je crois très objectivement qu'on n'a peut-être pas le verbe de Donald Trump, mais on a plus d'arguments économiques et juridique que l'Amérique dans cette affaire.
Ça signifie, Jean-Dominique Giuliani, si je vous entends bien, que vous n'êtes pas trop inquiet?
Je suis inquiet parce que, si vous voulez, c'est tellement inédit de voir le grand allié américain complètement ignorant des intérêts de ses alliés et de ses propres intérêts économiques, d'ailleurs, qu'on peut toujours être inquiet parce qu'on peut s'attendre au pire. Mais en réalité, non, vous avez raison, je pense qu'il faut être calme et que nous aurons satisfaction.
Le président de la Fondation Robert Schuman, cercle de réflexion pro-européen Jean-Dominique Giuliani, qui répondait sur France Info aux questions de Renaud Blanc. Un témoignage à venir sur France Info, celui de la famille d'un patient mort il y a 10 ans lors d'un essai thérapeutique et qui réclame toujours justice. Rendez-vous juste après un nouveau point sur l'info.
France Info. 5h-6h.
6h moins le quart et c'est l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, Maureen, le Premier ministre espagnol, qui parle d'une nuit de profonde douleur.
Après cette catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 21 morts, il y a aussi une trentaine de blessés graves. Un premier train à grande vitesse a déraillé avant de percuter un autre train qui a lui-même déraillé. On ne connaît pas encore les causes précises de l'accident. Les annonces du Premier ministre permettent d'envisager la non-censure. Voici ce que dit Boris Vallaud dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Le président des députés socialistes s'exprime alors que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, doit dire ce matin de quelle manière il compte faire passer le budget 2026. Face à l'inquiétude des salariés, la direction d'Orange annonce le déménagement d'une partie du personnel du site de Saint-Mauron à Marseille, un site fermé à deux reprises en quelques semaines. Des impacts de balles ont été retrouvés sur le bâtiment. Le quartier est touché par le trafic de drogue. Seuls les techniciens reviendront pour intervenir sur les installations techniques. Et puis Lyon s'impose face à Brest en Ligue 1. 2-1. L'OL se rapproche du podium. Lens est toujours leader du championnat devant Paris et Marseille.
France Info.
Depuis 10 ans, elle réclame justice, la famille de Guillaume Molinet, mort lors d'un essai clinique. C'était il y a tout juste 10 ans à Rennes, un accident rarissime. C'est le laboratoire portugais Bial qui testait un nouveau médicament. 4 autres patients avaient aussi été hospitalisés. Bonjour Aurélien Tirard.
Bonjour.
Service police-justice de France Info. Alors avant d'entendre le frère de ce patient décédé, une information France Info que vous nous révélez ce matin. Le laboratoire et le responsable des essais cliniques ont été mis en examen.
Oui, mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Et cela peut surprendre, mais cette décision est intervenue il y a déjà 3 ans. Une décision contestée depuis par les prévenus. De leur côté, les juges d'instruction considèrent qu'ils ont assez d'éléments pour les poursuivre.
Alors revenons désormais, Aurélien, à ce 17 janvier 2016. Il y a 10 ans, donc, au CHU de Rennes, Guillaume Molinet trouve la mort.
Oui, victime de lésions cérébrales quelques jours plus tôt. Cet artiste breton de 49 ans teste un médicament contre rémunération. Le but, apaiser des douleurs chroniques, neuropathiques et certains symptômes de la maladie de Parkinson. Guillaume Molinet est alors en parfaite santé. Son frère, Laurent, se souvient.
Ça faisait quelques années qu'il avait arrêté de fumer la cigarette, qu'il faisait du sport. Il commence la première prise, tout va bien la première et je crois qu'à partir de la deuxième, il commence à avoir des soucis de vision, des soucis d'équilibre et il a été transféré aux urgences le soir.
Guillaume Molinet finit par mourir. Dans le même temps, 4 autres patients de l'essai thérapeutique sont à leur tour hospitalisés, mais se rétablissent. Le drame immédiatement fait la une des journaux. Il faut dire qu'un tel accident, c'est exceptionnel. 10 ans plus tard, Laurent Molinet ne digère pas l'attitude du laboratoire Bial.
On a été reçu assez rapidement après le décès de mon frère par les responsables. Et en fait, ils ont juste essayé de nous enfumer, de nous faire signer des papiers, vous propose des sous moyennant la signature sur un petit papier. Bah, le papier, c'était on arrête là tout mouvement à leur encontre.
Une accusation très grave. De son côté, le laboratoire Bial conteste, je cite, formellement cette allégation.
Et Aurélien, donc l'enquête a pu se poursuivre, des investigations extrêmement difficiles.
En effet, car le laboratoire a mené son essai clinique d'abord sur des animaux, et cela dans le monde entier. Les juges d'instruction ont ainsi dû enquêter jusqu'aux États-Unis. Le but, voir si les animaux qui ont reçu la molécule ont, comme Guillaume Molinet, été victimes de lésions cérébrales. Les conclusions du rapport d'expertise versé au dossier judiciaire sont accablantes, nous révèle maître Jean-Christophe Coubris, l'avocat de la famille.
Sciemment, des données ont été dissimulées. Et puis, il y a aussi le lien entre la prise de cette molécule et le décès de Guillaume. Il y a eu une volonté féroce dès le départ de nous expliquer que cette molécule n'était absolument pas à l'origine du décès. Alors cela, le rapport d'expertise est très clair et cela a été écarté.
Le laboratoire réfute cette conclusion. La société portugaise a demandé une expertise complémentaire. Bial l'assure, les raisons de la mort de Guillaume Molinet restent encore aujourd'hui inconnues. Le laboratoire, je cite, souligne sa volonté de coopération et de transparence dans ce dossier.
Merci beaucoup Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. Il est 5h48. La soirée a été chaotique hier soir à Rabat, au Maroc, lors du sacre du Sénégal, champion d'Afrique de football, sacre en finale de la CAN. Face au Maroc, justement, le pays qui accueillait la compétition, les Marocains sont passés à côté de leur rêve. Une finale marquée par la polémique autour d'abord de ce pénalty accordé aux Marocains à la 96e minute, qui a poussé les Sénégalais à quitter le terrain. Incident qui a duré une vingtaine de minutes avec des supporters du Sénégal qui ont tenté d'entrer sur le terrain. Ça, vous ne l'avez sans doute pas vu à la télévision, ça n'a pas été filmé. Il y a eu des affrontements avec les stadiers, même dans la salle de presse. Très grosse tension entre les journalistes des deux pays. Soirée qui gâche donc un peu le reste de la compétition, selon Jean-Baptiste Guégan. Il est enseignant, spécialiste de la géopolitique du sport.
C'est un gâchis, c'est surtout un fiasco. C'est-à-dire, quand vous voyez les images de violence, et pour l'instant, on n'a pas de morts, on n'a pas de blessés, ouais. Ça montre aussi la maturité finalement des supporters marocains, mais on aurait très bien pu avoir des débordements et ça aurait très bien pu très mal se passer. Là, ce qu'on voit, c'est que suite à une erreur d'arbitrage, le match finalement part dans tous les sens et on peut avoir un match qui s'arrête, qui est arrêté et avec derrière une fin beaucoup plus compliquée. Bon, là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais ce qu'on a vu encore, c'est une certaine immaturité dans l'organisation du football africain. C'est dommage parce que ça partait tellement bien et qu'il y avait de vraies réussites structurelles à l'œuvre avec cette compétition, à tout point de vue, hein, organisation, transport, sécurité. Bon, ces images malheureusement resteront, elles entachent aussi la victoire du Sénégal, c'est dommage. Parce que ça reste un beau champion aussi, c'est dommage pour le Maroc.
Vous parlez de fiasco sur cette finale, ce sont les images où l'on voit les supporters sénégalais se faire véritablement matraquer qui vous ont choqué, que vous retenez, ou c'est autre chose encore?
J'espère que les images qu'on retiendra, c'est peut-être la douleur de Brahim Diaz, mais surtout la victoire du Sénégal. Ce qu'on risque de voir surtout beaucoup, c'est ces images de violence insupportables dans le stade, d'où qu'elles viennent, quelle que soit la raison qui les provoque. Elles sont inadmissibles et puis pour l'instant, ça reste aussi ce qui va faire l'actualité, c'est-à-dire qu'on parle de finale rocambolesque, qu'on parle d'une finale qui n'aurait pas dû se terminer comme ça. C'est aussi à l'image de ce que l'Afrique devait montrer, c'est-à-dire là, à l'échelle continentale, ça devait être le tournoi qui montrait vraiment, après la réussite en Côte d'Ivoire, un cap vers la Coupe du Monde 2030, parce que 2030, c'est la prochaine échéance pour le Maroc.
Mais ça signifie que vous parlez d'images un peu écornées, c'est pour le Maroc ou même, j'allais dire, pour le continent africain, cette CAN et cette finale?
Ce qu'on a vu là, c'est un arbitrage qui finalement a hésité, qui en hésitant crée un problème qui dépasse de loin le jeu et le cadre du terrain, et derrière, ce qu'on mesure aussi, c'est qu'on a du mal à reprendre le match. Il faut qu'un joueur aille rechercher son équipe, en l'occurrence c'est Sadio Mané, dans les vestiaires pour que le jeu reprenne. Bon, c'est pas ce qu'on attend d'une finale d'un tournoi qui doit couronner le football africain, qui est l'un des plus suivis du foot mondial avec l'Euro et la Coupe du Monde, et dans un cadre où justement ce tournoi avait montré d'excellentes choses et la promesse était formidable. Et il y a une vraie stratégie derrière, c'est la stratégie d'un pays comme le Maroc.
Ouais.
Ce qu'on voit là, c'est dommage parce que c'est ce qu'on va retenir.
Et la stratégie d'un pays comme le Maroc, elle est comparable à ce qu'on a connu, par exemple, ce qu'on connaît dans des pays comme le Qatar, par exemple. C'est ça ce que vous voulez nous dire, Jean-Baptiste Guégan? La diplomatie du sport, ce qu'on appelle la diplomatie du sport?
Alors, c'est un peu plus que de la diplomatie du sport. Il y a une vraie stratégie de développement par le football au Maroc depuis 10 ans. Et c'est censé être un accélérateur de développement avec derrière ce contexte compliqué, hein, qui est celui justement de la révolte de la jeunesse marocaine. Là, ce projet finalement marocain dans le football, alors il a moins de moyens qu'au Qatar, mais à l'échelle africaine, c'est celui avec le Rwanda qui était le plus ambitieux. Donc de voir une finale comme ça s'achever avec des images qui ne sont pas celles qu'on avait envie de voir, quel que soit le vainqueur, là, ce qu'on voit, c'est finalement quelque chose qui déçoit. Et ce n'est pas ce qu'on avait envie de voir justement de cette CAN qui appelait tant de promesses et qui avait aussi obtenu de vraies réussites en dehors du terrain et sur les terrains.
Mais d'une manière quand même générale, pour être un peu positif, c'est vrai que la CAN gagne en puissance. C'est aujourd'hui une compétition qu'on regarde davantage, avec peut-être plus de densité de grands joueurs qu'auparavant. C'est une compétition qui monte quand même, tout de même, Jean-Baptiste Guégan.
Alors oui, sportivement, il y a évidemment ici une montée en gamme à tout niveau. Là, j'ai envie de dire que ce qu'on voit, c'est pas forcément la performance des joueurs sur le terrain qu'on retient, c'est celle de l'arbitrage. Et en l'occurrence, la montée en gamme, c'est pas celle justement de toutes les sélections, hein, qui sont beaucoup appuyées notamment sur les diasporas, mais celle de l'arbitrage. Là, on a quelque chose qui pose question et qui doit aussi être résolu par les plus hautes autorités du foot africain, la CAF, mais aussi par la FIFA.
le spécialiste de la géopolitique du sport, pardon, enseignant Jean-Baptiste Guégan, qui répondait sur France Info à Renaud Blanc. Le compositeur de musique de film Hans Zimmer troque sa baguette de chef d'orchestre pour une baguette magique. Ce sera la playlist de France Info juste après l'actu écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actualité économique en trois titres. Commençons, Emmanuel, avec l'Allemagne qui obtient le feu vert de l'Europe pour construire des centrales électriques au gaz.
Oui, accord de principe de Bruxelles face aux engagements de Berlin de respecter les règles européennes en matière d'environnement et puis ses objectifs de neutralité carbone à horizon 2045. Alors l'État allemand va en effet pouvoir accorder des aides publiques pour construire de nouvelles centrales de ce type. Le chancelier allemand Friedrich Merz se félicite de l'aval des autorités européennes et affiche la couleur. Il s'agit, dit-il, de garantir un approvisionnement énergétique fiable et abordable pour le secteur allemand confronté à la crise industrielle.
Deuxième titre, Emmanuel, le producteur de la vache qui rit qui investit au Vietnam.
Oui, le groupe fromager Bell va mettre sur la table 17 millions d'euros pour renforcer son outil de production locale. L'entreprise souhaite faire du Vietnam une plateforme de développement de sa production en Asie du Sud. Cet investissement va permettre au groupe français de produire à terme 20 000 tonnes de fromage par an au Vietnam, donc soit deux fois plus qu'aujourd'hui. La création de 400 emplois devrait suivre. Bell est implanté dans le pays depuis 2011.
La Chine annonce un confortable taux de croissance.
Oui, alors si l'on en croit en tout cas le chiffre officiel communiqué cette nuit par le pouvoir en place à Pékin, le pays a enregistré l'année dernière une progression de son PIB, la richesse nationale, de 5%, donc sur l'année. Une dynamique atteinte malgré la baisse de la consommation des ménages.
Emmanuel, on prend rendez-vous avec vous dans une demi-heure sur France Info, ce sera le Brief Éco.
Et on va parler champagne, le vin de la fête. Oui, le vin de la fête, enfin présenté comme tel, ne l'est plus réellement. Les ventes, tant en France qu'à l'étranger, sont en repli pour la troisième année consécutive. Crise économique et changement des habitudes de consommation obligent.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h55 sur France Info, c'est l'heure tous les matins de la playlist. Et ce matin, Maureen Suignard, vous nous emmenez, tiens donc, à Poudlard.
Vous reconnaissez, je l'espère, la bande-son d'Harry Potter, musique désormais cultissime. Le premier des 8 films de la saga est sorti il y a 25 ans. Allez hop, un petit coup de vieux de bon matin.
Aïe, aïe, aïe.
Et vous savez peut-être, William, qu'une série est en préparation. Chaque tome de l'œuvre de J.K. Rowling sera adapté et fera l'objet d'une saison. Et on vient d'apprendre que c'est un compositeur mondialement connu, Hans Zimmer, qui aura la lourde tâche de créer l'univers musical de cette série. Changement de décor. Vous entendez sa première composition pour un film d'animation. Ça remonte à 1994. Vous l'avez peut-être ?
Oui, je crois qu'on est dans la savane. Hein.
Voilà, du Roi Lion, bien sûr. Et oui, les larmes que vous avez versées quand Mufasa meurt, c'est peut-être un peu de la faute d'Hans Zimmer, mais c'est un succès. Il remporte son premier Oscar. Il décroche aussi deux autres récompenses, un Golden Globe et un Grammy Award. Et un an plus tard, Hans Zimmer fascine des milliers de spectateurs avec ça. Il s'agit de la bande originale d'USS Alabama, un film d'action de 1995. Hans Zimmer allie la musique orchestrale, électronique, le tout accompagné de chœurs. Là aussi, il décroche un Grammy Award et il tape dans l'œil de Steven Spielberg. Le réalisateur le place à la tête du département musical de son nouveau studio DreamWorks. Bien sûr, Hans Zimmer ne s'arrête pas là. Il est à l'origine de partitions de Rain Man, de Gladiator, de Pirates des Caraïbes. Il fait aussi les BO de plusieurs Batman, de Top Gun, de Sherlock Holmes, de Transformers, d'Interstellar. L'année dernière, il a reçu encore un Grammy pour son travail pour le deuxième volet de Dune. Bref, vous avez compris que la liste est très, très, très longue. Et alors, pour les fans d'Harry Potter, qui ne pensent qu'à cette série dont je parlais au début de la chronique et qui ne pensent qu'à ça depuis deux minutes, sachez que si tout va bien, elle sera diffusée dès l'année prochaine.
Merci beaucoup Maureen Suignard. Et d'ailleurs j'ai sorti mon grimoire Impervious. C'est le sortilège qui va nous protéger aujourd'hui de la pluie et on va en avoir besoin.
France.
France Info Météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Impervious, chère Christine Peña, face à ces pluies encore soutenues dans le sud.
Et oui, la situation est figée. Il va encore bien pleuvoir sur le Roussillon, la Corse également. Côté cumul, localement, on pourrait avoir du 120-150 mm tout de même sur les PO, les Pyrénées-Orientales. De la neige sur les hauteurs de 30 à 40 cm sur le Canigou, par exemple. Et puis la Corse également. Il va neiger en montagne. Le risque d'avalanche d'ailleurs est de 4 sur 5 en Corse. Et il va bien pleuvoir, surtout sur l'est de l'île. Alors qu'ailleurs, c'est bien plus calme. Situation figée pour la partie est, nord-est du pays. On est sous des conditions anticycloniques, donc rien à voir. Alors, un ciel souvent voilé, quelques rayons de soleil, mais pas beaucoup. Et puis des brouillards qui pourraient rester persistants sur le nord-est, notamment du Val-de-Saône à près de la frontière allemande, où le froid fait une petite incursion. Tiens, ça y est, on a le retour des gelées matinales du côté de l'Alsace, notamment la Lorraine. On a de 0 à moins 2 degrés ce matin. Il fait entre 2-3 degrés en Île-de-France. Plus on va vers l'ouest, où la situation est plutôt océanique, et plus les températures sont beaucoup moins froides, autour de 8-10 degrés. On a un peu plus en Méditerranée cet après-midi encore. On aura quelques pointes à 16 degrés à Nice et Ajaccio, alors qu'il fera juste 3 degrés à Strasbourg.
Merci beaucoup Christine Peña. D'ailleurs, je crois que le match de l'info est à vos côtés. C'est Jérôme Chapuis à la baguette de saucisse. 9 qui commence. Bonjour Jérôme.
Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. En effet, je salue Christine Peña, Diane Ferchit qui est
bonjour
à mes côtés, Maureen Suinière. Aujourd'hui, toute l'équipe de l'info est prête en ce lundi matin. Nous sommes le 19 janvier. Le 6-9 commence, il est pile 6h.
France Info.